9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. La démocratie américaine est-elle en péril, comme l'a dit Joe Biden, qui risque une sévère défaite lors des élections de mi-mandat mardi prochain, alors que Donald Trump vient d'annoncer qu'il sera probablement candidat en 2024. On va voir ça avec Françoise Coste. Et puis, le groupe Renaissance à l'Assemblée vient de perdre une voix. La députée Aurore Berger va accoucher. Or, le congé maternité n'existe pas pour les élus de la République. Quand elles s'absentent pour mettre un enfant au monde, leur siège reste vide et elles ne peuvent plus voter les lois. C'est comme si elles étaient punies. Béatrice Guillemont va nous l'expliquer. Et l'on terminera l'émission avec Brigitte Giraud, qui vient de recevoir le prix Goncourt pour son roman « Vivre vite ».
Europe 1.
Françoise Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'Université de Toulouse. On vous doit notamment une excellente biographie de Ronald Reagan, parue chez Perrin en 2015. Aux États-Unis, on est en pleine campagne pour les élections de mi-mandat qui vont se dérouler mardi prochain et renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Joe Biden a appelé à défendre la démocratie pour éviter le chaos. Il a même parlé de démocratie en péril, un argument que l'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la bouche du président des États-Unis. Alors c'est quoi ? C'est de l'électoralisme ? De quoi a-t-il peur ?
Non, je crois qu'il a, mis le doigt sur quelque chose de très réel. C'est, si vous voulez, les premières élections qui arrivent après l'insurrection du Capitole, le 6 janvier 2021. Je pense qu'il ne faut pas minimiser la crainte des démocrates, mais de certains républicains aussi, après cette insurrection ratée, que ce n'était qu'un galop d'essai pour une nouvelle page qui se tourne vers plus de violence dans la politique américaine, et que ces midterms, c'est le premier test grandeur nature, parce que la crainte, c'est que si les démocrates gagnent, les républicains ou certains républicains, Trump en premier lieu, n'accepteront pas les résultats et basculeront de nouveau dans la violence. Ou, crainte numéro 2, c'est que si les républicains l'emportent, ils vont, au niveau des États, par exemple en Arizona, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, manipuler la loi électorale de telle façon que, en 2024, pour les prochaines élections présidentielles, les démocrates ne puissent pas l'emporter. Que même s'ils l'emportent dans les urnes, ils seront accusés de fraude par les élus locaux républicains, et donc ces États seront donnés aux candidats républicains, peut-être Trump. Voilà, donc on est dans un enjeu institutionnel et démocratique qui est réel.
Et quand Joe Biden parle de semi-fascisme, à quoi fait-il allusion d'après vous ?
Alors il fait allusion, je pense, là aussi on est dans l'après 6 janvier 2021, il fait allusion à Trump et toute la base du Parti républicain qui est acquis à Trump et un nombre grandissant d'élus et de candidats qui ne joue plus le jeu démocratique avec un petit dé, c'est-à-dire qu'il ne considère plus l'opposant du Parti démocrate comme légitime. C'est un parti des démocrates qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas le droit de conquérir dans les élections, et s'il gagne les élections, il n'a pas le droit de gagner les élections. Donc on bascule dans, c'est ça qu'il appelle du semi-fascisme, dans un régime où l'opposition n'a pas droit de citer, et où on va empêcher par tous les moyens possibles, médiatiques, institutionnels, électoraux, voire par la violence, à l'opposition démocrate de remporter des élections.
Mais les Trumpistes pourraient dire la même chose. Après tout, Donald Trump, avant d'être élu en 2016, lui aussi, on considérait qu'il n'avait pas le droit de gagner les élections, et une fois élu, on a estimé qu'il n'était pas légitime.
Tellement pas légitime que pendant les 4 ans de sa présidence, il a dû subir 2 procès en destitution, ce qui était unique dans l'histoire des États-Unis. Donc effectivement, il a eu aussi, comment dire, une opposition qui ne le considérait pas comme légitime. Mais dans le cas de Trump, il s'en est sorti par le haut, puisqu'il a été innocenté 2 fois dans ces procès de destitution. Et dans ce cas-là, en fait, les institutions ont fonctionné pour lui. On pourrait aussi dire que, on pourrait se rappeler qu'en 2016, Trump a perdu le vote populaire par 3 millions de voix. Il a remporté l'élection présidentielle grâce au système indirect des grands électeurs. Les démocrates, ils ont avalé cette couleuvre en jouant le jeu des institutions, en disant « bon, d'accord, on a Hillary Clinton, elle a eu la majorité des voix, mais bon, d'accord, elle perd l'élection quand même. » Donc les démocrates jouent encore le jeu des institutions, même quand ça ne les arrange pas, ou ça ne les avantage pas. Quand Biden parle de semi-fascisme, c'est qu'il n'est pas convaincu que les républicains. Dans l'autre sens, le système fonctionnerait aussi.
Alors c'est vrai que de nombreux républicains qui se présentent lors de ces élections de mid-term, pas forcément pour la Chambre des représentants, pour le Sénat d'ailleurs, il y a d'autres scrutins, c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux refusent de s'engager à reconnaître le résultat de l'élection. Mais pourquoi ne le reconnaîtrait-il pas? Qu'est-ce qui pourrait jeter un doute sur ce résultat?
Alors ça, c'est très compliqué. Vous avez raison qu'en fait, l'enjeu, c'est pas le Congrès, c'est les élections dans les États, où on va élire des gouverneurs, mais aussi des secrétaires d'État locaux, c'est le terme utilisé, qui sont en fait, au niveau des États, des élus qui doivent organiser les élections. Il n'y a pas de ministère de l'Intérieur aux États-Unis qui va organiser les élections au plan national. Les élections sont organisées par les élus locaux dans chaque État. Et ils regardent, ils se projettent vers 2024, vers les élections présidentielles. En disant que, et là, la théorie qu'ils avancent, ces candidats républicains, qui est en partie correcte, elle se base sur la Constitution des États-Unis, qui dit que c'est justement aux États d'organiser les élections et de décider des résultats des élections, en particulier pour les élections présidentielles. Ce qui est à la fois simple, mais vague, parce que les républicains d'aujourd'hui vont dire « Ok, ça veut dire que si dans l'État du Wisconsin ou de l'Arizona, par exemple, où ces questions sont vraiment très présentes dans la campagne actuelle, si dans l'Arizona, en 2024, Joe Biden est le candidat démocrate pour les présidentielles et qu'il remporte l'élection, peut-être de peu, comme en 2020, les élus locaux républicains vont dire « La marge n'est pas immense, il y a sans doute eu fraude, l'élection est frauduleuse. » Dans ce cas-là, les élus locaux de l'Arizona peuvent dire « On annule le résultat de l'élection dans notre État, l'Arizona, et nous, élus locaux, on va modifier le résultat. On va dire, sur le papier, on dirait que Biden a gagné, mais nous, on pense que c'est suspect, il y a eu des fraudes. Donc, on va dire que c'est le candidat républicain, Trump, par exemple, qui l'emporte. Et donc, l'enjeu, c'est qu'on va donner aux élus locaux le droit de modifier le résultat de l'élection présidentielle. Et c'est ça qui se joue en ce moment, parce que, dans ce cas-là, l'élection de 2024 sera biaisée.
On fait une pause, Françoise Coste, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Françoise Coste, professeure de civilisation américaine à l'université de Toulouse. Ces élections de mi-mandat, près de 30 millions d'Américains ont déjà voté de façon anticipée, soit en se déplaçant physiquement, soit en envoyant leur bulletin par la poste. C'est le vote par correspondance qui est l'objet de tous les soupçons chez les républicains. Le vote par correspondance et les machines à voter.
Voilà, c'est-à-dire que cette paranoïa des républicains sur la fraude électorale dont on parlait, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du fait que le processus électoral, il n'est pas en béton armé aux États-Unis, parce que c'est pas juste le jour de l'élection où, comme en France, on va tous voter le même jour dans des urnes transparentes et faire un dépouillement dès la fermeture des bureaux de vote devant tout le monde. Non, ce processus électoral, il est tellement long, avec effectivement beaucoup, des dizaines de millions d'électeurs qui votent par la poste. Est-ce que ce processus est safe? Est-ce qu'il est complètement sécurisé? C'est parce que ces questions se posent que les républicains peuvent, de bonne ou mauvaise foi, émettre des doutes sur la véracité du scrutin. Mais en même temps, c'est ce type de vote par correspondance ou de vote anticipé, à la base, ça partait d'un très bon sentiment qui était que, aux États-Unis, il y a une très haute abstention. 50% des gens ne votent pas. Donc, depuis une vingtaine d'années, on essaye de trouver le plus de mécanismes possibles pour aider le vote. Donc ça fait partie des solutions. Mais effectivement, ça prête le flanc pour se faire battre. Même s'il semble qu'il y ait très peu de fraude, le doute existe.
Le plus simple, ce serait peut-être de déplacer le vote au dimanche, comme chez nous. Les gens pourraient voter plus facilement qu'un jour ouvrable comme le mardi.
Ça, c'est un serpent de mer de la politique américaine. On en revient au fait que le vote du mardi, il découle de la Constitution des États-Unis qui est très difficile à modifier. Et en plus, la raison pour laquelle on l'a placé le mardi, c'est parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et donc, faire voter les gens le dimanche, ça provoquerait l'opposition de toutes les églises américaines qui sont très puissantes. Et voilà, c'est même pas la peine d'essayer.
Françoise Coste, Donald Trump vient d'annoncer qu'il sera probablement candidat en 2024. Comment expliquez-vous le culte de la personnalité dont il est l'objet ? Un culte de la personnalité bien supérieur à celui dont ont pu bénéficier en leur temps des républicains comme Nixon ou Reagan. Reagan auquel vous avez consacré une formidable biographie. Or, Nixon et Reagan avaient été beaucoup plus efficaces que Donald Trump. Et ils ont d'ailleurs été élus et réélus les doigts dans le nez.
Oui, ils ont été réélus triomphalement en 72 et 84 respectivement. Ils étaient beaucoup plus populaires, ils ont été réélus facilement, ils ont fait beaucoup plus de réformes d'ampleur concrètement que Trump. Mais Trump, il faut lui reconnaître ça, il est très fort dans... C'est un showman, encore plus que Reagan qui était hyper charismatique et qui était un grand communicateur et qui était très fort dans les, bien entendu, dans l'utilisation des médias, en particulier la télé. Mais Trump, il va encore plus loin parce que il a été le premier, sans doute, homme politique américain à vraiment savoir utiliser les réseaux sociaux pour sa propre gloire personnelle. Donc, il a inventé, si vous voulez, un nouveau genre de communication politique. Et personne ne peut rivaliser avec lui sur ça. Et puis, il a aussi, encore plus que Nixon et Reagan qui avaient commencé, mais il est allé encore plus loin, il a su exploiter les médias de son époque avec une rhétorique populiste beaucoup plus explicite que chez ses prédécesseurs, à un moment où la population américaine était encore plus mûre pour être réceptrice de ce type de populisme, une population américaine beaucoup plus divisée qu'il y a 40 ou 50 ans, une population américaine beaucoup plus inquiète sur son avenir qu'il y a 40 ou 50 ans. Et cette inquiétude, cette division, ce sentiment de paranoïa, de victimisation d'une grande partie de la population blanche en particulier. Nixon et Reagan, ils sont les présidents d'avant la désindustrialisation massive, par exemple. C'est les présidents où il y a encore une classe ouvrière qui sent qu'elle va être en déclin, mais qui est encore très puissante. Cette classe ouvrière blanche, elle a été détruite par les délocalisations des 40 dernières années. Donc, la population est plus fragile et elle était plus mûre pour être cueillie par un populiste de génie comme Trump.
On a l'impression que Trump est capable de faire n'importe quoi à ses électeurs et aux élus républicains qui dépendent de son adoubement. À votre avis, Françoise Coste, si les républicains remportent la majorité au mid-term, est-ce qu'ils risquent de diminuer le soutien de l'Amérique à l'Ukraine, par exemple, et pourquoi le ferait-il ?
Ça, c'est un grand risque. Et ça, c'est en fait une des seules constantes idéologique chez Trump. Trump, il n'a pas vraiment un corpus idéologique très précis, sauf pour deux ou trois convictions anciennes, qui datent d'avant son entrée en politique en 2015, et l'admiration pour Poutine fait partie de ces convictions trumpiennes. Une admiration qui date de quand Trump était businessman et que son entreprise essayait de faire du business en Russie, de construire des golfs en Russie, de construire des gratte-ciels en Russie. Donc Trump avait déjà un réseau russe avant de rentrer en politique. Il faisait du business avec des banques russes aussi, parce que pendant très longtemps, les banques américaines ne voulaient plus financer l'entreprise Trump alors que les banques russes le faisaient encore. Donc bref, il avait un tropisme pro-russe en tant que businessman, qu'il a poursuivi en tant qu'élu, qui était en plus matiné d'une certaine admiration pour la Trump poutinienne. C'est-à-dire, Poutine, il tient sa population, c'est un leader autoritaire. Et il y a chez Trump cette envie, on l'a vu le 6 janvier 2021, de rendre le régime américain peut-être un peu moins démocratique, un peu plus autoritaire. Il se rêverait en Poutine américain, Trump. Donc, d'emblée, dès qu'il a été élu, dès la convention républicaine de 2016, en réalité, Trump et son équipe avaient modifié le programme officiel du Parti républicain, qui déjà à l'époque, il y avait la guerre au Donbass en particulier, le Parti républicain était plutôt pro-ukrainien et anti-russe. Cette clause du programme officiel du parti avait été supprimée par les Trumpiens. Et puis après, on a vu pendant 4 ans de Trump à la Maison-Blanche qu'effectivement, il a tout fait pour fragiliser l'Ukraine. Et d'ailleurs, on l'oublie aujourd'hui, mais la première tentative de destitution contre Trump en début 2020, c'était à cause d'un chantage qu'il avait fait au président Zelensky, que personne ne connaissait à l'époque, où il voulait que Zelensky lui donne des infos sur les magouilles de business du fils de Biden, Hunter Biden, en Ukraine, contre des missiles américains que le gouvernement américain avait promis et que Trump, en fait, ne voulait pas livrer à l'Ukraine. Donc, c'est une vieille histoire, ça. Et donc, il n'y a pas de raison pour qu'on revienne en arrière si les Républicains l'emportent mardi prochain. Et je pense qu'au Pentagone, qui est lui, pour le coup, le leadership du Pentagone est visiblement, bien entendu, pro-ukrainien et anti-russe, à la Maison-Blanche aussi, si le Congrès devient républicain mardi, il risque d'y avoir des fortes tensions entre le législatif, le militaire, l'exécutif aux États-Unis sur la question de la guerre en Ukraine.
Françoise Coste, une dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a pour vous un vrai risque de guerre civile aux États-Unis, comme on le dit ?
La question se pose de plus en plus. Ce qui est frappant, c'est que on voit de plus en plus d'historiens américains, de politistes américains, des gens qui ont travaillé, écrit sur l'insurrection anti-américaine en Irak, par exemple. Enfin bon, donc des spécialistes de la violence et de la guerre civile qui disent de plus en plus d'éléments chez nous, dans notre système, font penser à une guerre civile en germe. C'est peut-être un peu paranoïaque et excessif, mais je n'exclus pas, en tout cas, une grave crise institutionnelle qui va, entre les midterms de 2022 et la présidentielle de 2024, on ne va pas être dans un temps politique électoral normal. La campagne présidentielle de 2024 ne sera pas normale parce que tout va se passer sous l'ombre, le spectre de la violence et du non-respect des résultats par les républicains.
Merci Françoise Coste. On fait une pause et on se rend à l'Assemblée nationale où, en 2022, rien n'est prévu pour les députés qui vont accoucher. Les congés maternité n'existent pas.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Béatrice Guillemont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en droit, membre associé au laboratoire Le Cercle à l'Université de Bordeaux et chercheuse à l'Observatoire de l'éthique publique. Aurore Berger, la présidente des députés macronistes, vient de partir en congé maternité. Or, rien n'est prévu par le règlement de l'Assemblée nationale pour les élus qui vont accoucher. Leur siège reste vide jusqu'à leur retour. C'est comme si elles n'étaient plus députées.
Oui, effectivement, le fauteuil reste vacant. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, c'est parmi les plus vieilles institutions de la République. Et effectivement, la Ve République a fait le choix d'une République stable, d'une constitution dite rigide, pour que les choses évoluent peu. Mais en même temps, il faut que ça évolue et c'est des questions qui se posent désormais.
C'est quand même en octobre 1945 que les 33 premières femmes élues de la République sont entrées à l'Assemblée. On est 77 ans plus tard, elles sont 215, soit 37,3% de la représentation nationale, et on n'a jamais rien prévu pour le cas où elles attendraient un enfant. C'était même un argument pour que les partis politiques ne présentent pas de femmes, mais depuis qu'il y a la parité, c'est aberrant.
C'est aberrant, on a permis aux femmes d'être candidate à des élections. Maintenant, il faut leur permettre d'exercer au même titre que les hommes leur mandat électif public. Le mandat électif public, initialement, il est non rémunéré. Les élus, pour une partie seulement, bénéficient d'indemnités. Mais effectivement, tout n'est pas prévu et le règlement de l'Assemblée nationale ne prévoit pas de situation où des députés, en l'occurrence femmes, seraient contraintes de se retirer de la vie politique momentanément pour donner naissance à un ou plusieurs enfants.
Mais en plus, Aurore Berger, elle n'est pas partie pour 3 mois, elle est partie pour 3 ou 4 semaines, c'est ce qu'elle a annoncé. Revenir plus tôt ne serait pas un bon signal envoyé aux femmes, a-t-elle précisé. Pendant ce laps de temps, le groupe Renaissance comptera donc une voix de moins, car elle ne peut pas se faire remplacer, ni voter à distance, et pour déléguer son vote, il faut être en arrêt maladie. Or, avoir un enfant, ça n'est pas une maladie.
Ça n'est pas une maladie, c'est des situations qui avaient déjà été connues. Effectivement, il y a déjà des femmes dans les précédentes législature. On a le souvenir de Rachida Dati qui était partie en congé maternité seulement 5 jours après.
Elle était ministre, elle.
Oui, elle était ministre, membre du gouvernement, effectivement. Et donc, cette situation-là, elle existe aussi dans d'autres parlements. C'est absolument pas méconnu. Et ça reste une anomalie. Enfin, c'est devenu une anomalie. Avant, c'était un sujet dont on ne devait pas parler. Oui, effectivement. Le rapprochement peut être fait avec le harcèlement que certains collaborateurs parlementaires auraient subi. C'était un non-sujet. Et puis maintenant, depuis 2022, c'est devenu un sujet. Et effectivement, maintenant, la place des femmes, y compris des femmes donnant naissance à des enfants, se pose au sein des assemblées.
Mais c'est bizarre que ça ne choque pas le fait que, tout à coup, il manque un député ou une députée, en l'occurrence, elle ne peut pas voter. Ça ne choque personne. C'est parce que l'Assemblée est collégiale, c'est ça ?
C'est ça. En fait, ce qu'on oublie, c'est que notre fonctionnement en France, c'est dans une démocratie dite représentative, et on a fait le choix de la collégialité. Donc, partout, sauf à la présidence de la République, il y a un système de collégialité. Le Conseil des ministres, c'est la collégialité. L'Assemblée nationale, le Sénat, donc l'entièreté du Parlement, le Conseil économique, social et environnemental, et puis tous les conseils locaux, donc les conseils municipaux, départementaux et régionaux. Donc, de fait, s'il manque un élu de ce conseil-là, ou de cette assemblée-là, l'assemblée peut continuer. Donc l'absence techniquement d'un député ou d'une députée en l'occurrence ne pose pas de problème au fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale. En revanche, ça pose un problème, notamment dans le cadre de l'économie des groupes politiques qui sont représentés dans les assemblées.
Surtout maintenant où c'est à une voix près. Hein.
Effectivement.
Alors il y a Mathilde Digné, députée de la France Insoumise. Elle a proposé de faire une loi pour que les élus enceintes puissent se faire remplacer par leurs suppléants. Ce qui n'est pas possible en l'état actuel, hein, puisque le ou la suppléante ne remplace le député ou la députée que si elle est nommée ministre. Si elle part définitivement, pas temporairement.
Alors, pas nommée ministre, mais membre du gouvernement. Ça, c'est l'article 25 de la Constitution. Donc, de mémoire, la proposition de loi, elle vise à modifier la Constitution. À mon sens, on n'est pas obligé de procéder à une modification de la Constitution.
Oui, parce que ce serait compliqué.
Parce que c'est contraignant, effectivement. Et la Constitution, elle est dite rigide, donc ce n'est pas facile à changer. En revanche, modifier simplement le règlement de l'Assemblée nationale, ça serait possible. Je crois que c'est l'article 7 qui prévoit la vacance des députés et prévoit un congé donc post-natalité. Post-natal et prénatal, donc prénatal pour avant la naissance et post-natal, et y compris aussi pour les députés hommes, parce qu'il y a des députés hommes à l'Assemblée nationale qui deviennent aussi pères.
Et qui veulent leur congé de paternité.
Et qui aimeraient bien avoir leur congé de paternité. Et de la même manière, si on a envie d'être encore un peu plus progressiste ou pour certains disruptifs, on pourrait aussi penser à la possibilité pour les femmes allaitantes, les députées allaitantes, de pouvoir allaiter à l'Assemblée nationale. Alors déjà que porter un maillot de foot dans une Assemblée nationale, ça peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Donc qu'est-ce que serait une femme si elle se mettait à allaiter dans l'hémicycle ou en commission? Mais pourtant, c'est un cas de figure.
C'est arrivé à l'étranger. On a vu des photos d'ailleurs de jeunes femmes députées.
Exactement. Donc si les institutions républicaines sont ce qu'elles sont, et que c'est important que ces institutions demeurent des institutions, donc il faut aussi que ces institutions elles s'adaptent en réalité à l'évolution de la société, et ça paraît être, si ce n'est un besoin, complètement une nécessité. De la même manière, on pourrait aussi prévoir une crèche. Il y a bien deux bistrots à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors si on met un bistrot, un restaurant, pourquoi pas une crèche à destination des jeunes enfants?
Oui, parce que c'est pas tout d'accoucher. Après, quand on revient. Hein. On fait une pause, Béatrice Guillemot. On se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Béatrice Guillemot. Le problème des femmes députées enceintes qui vont accoucher et qui n'ont absolument pas de congé maternité. Rien n'est prévu dans le règlement. On l'a dit, Mathilde Igné propose une loi pour que le suppléant puisse suppléer, mais Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a dit que ce n'était pas forcément une solution, puisque le ou la suppléante a un emploi qu'il n'est pas forcément possible de quitter pour quelques semaines ou pour 3 mois.
Oui, effectivement. Alors moi, je ne tournerai pas ça sous l'angle le problème des femmes enceintes députées, c'est le problème de l'absence de solution, l'absence de gestion par les assemblées, parce que la situation peut se dupliquer dans les autres assemblées. Et effectivement, l'article 25 de la loi, ne parlant de la Constitution, prévoit la possibilité d'être remplacé par son suppléant lorsqu'on intègre le gouvernement. Donc ça veut dire qu'il faut non seulement permettre la prise en charge de ces des députés qui se retrouvent dans cette situation-là, hommes et femmes, pour le congé maternel et paternel, mais aussi prévoir la possibilité que le député soit remplacé, le ou la députée soit remplacée. Et là, en l'occurrence, ça emporte d'autres enjeux, notamment des enjeux en matière de vote.
Oui, parce qu'elles pourraient déléguer leur vote à un ou à une collègue, comme on le fait quand on est malade. Enfin, on l'a dit, être enceinte, ça n'est pas être malade. Donc, elles ne peuvent pas déléguer, là.
Effectivement, il y a plein de solutions. Il y a le système du vote où on demande à un collègue d'aller voter pour soi-même. Donc, ça, ça reste une possibilité. C'est au Parlement, puisqu'il est souverain de décider des modalités et de procéder à l'aménagement et à la réforme de la réglementation, enfin du règlement de l'Assemblée nationale, en l'occurrence.
Elles pourraient aussi voter à distance. Elles peuvent suivre les débats de chez elles. C'est ce qu'elles font, d'ailleurs, hein, quand elles vont accoucher. Mais elles ne peuvent pas voter. Pourquoi ?
Parce qu'il faut être présent. Donc,
non, ça mais, aussi, il faudrait changer le règlement.
Non, mais effectivement, quand on pose les questions aussi simplement que ça, ça paraît être une hérésie. On se dit que c'est plus du tout d'actualité et qu'il y a plein de solutions qui peuvent être mises en place. La question, c'est que va faire l'Assemblée nationale face à ça ? Parce que là, l'Assemblée nationale, elle s'est féminisée, et plus que féminisée. Alors d'abord, elle s'est féminisée, et maintenant, il y a des postes stratégiques qui sont occupés par des femmes. L'Assemblée nationale, on le voit avec Yael Braun-Pivet, on le voit avec Mathilde Panot, Marine Le Pen, qui est aussi à un poste clé. Donc effectivement, cette situation-là, elle est amenée à se reproduire. Et en tout état de cause, procéder à la modification du règlement, ça passe par une loi organique, mais c'est quelque chose qui doit être fait.
Oui, Aurore Berger, dont on parle, hein, qui s'en va, donc elle est présidente des députés macronistes. Elle peut se faire remplacer en tant que présidente des députés macronistes par quelqu'un d'autre, mais elle ne peut pas se faire remplacer pour voter la semaine prochaine la loi qui lui tient à cœur. Là, elle ne peut pas voter. Là, c'est quand même incroyable qu'on n'y ait jamais pensé jusqu'à présent.
Ça n'a pas jamais été pensé. C'est pensé, ça a été vécu. Simplement, généralement, les femmes étaient priées de faire profil bas. On est certes avant tout députée, mais en l'occurrence, la femme n'est pas dans la même condition que l'homme. Et quand elle porte un enfant, elle est aussi contrainte de devoir assumer sa grossesse.
Mais Béatrice Guillemont, quand elle s'absente pour accoucher, est-ce que les femmes députées continuent d'être payées, étant donné que leur mandat n'est pas un emploi, hein, et qu'elles touchent des indemnités, elles ne touchent pas un salaire, et que le congé maternité n'existe pas pour les députées, et qu'elles ne sont pas malades? J'imagine qu'elles ne touchent pas leurs indemnités.
Alors, à ma connaissance, elles continuent à toucher leurs indemnités.
Ah, quand même.
Il faudrait vérifier, il faudrait demander ça simplement à l'Assemblée nationale, ça serait intéressant de le savoir. Il y a des sanctions disciplinaires qui sont prévues, on peut retirer une part de l'indemnité. Maintenant, sanction disciplinaire, c'est l'objet d'une faute. Est-ce qu'être enceinte, c'est une faute? Ça m'étonnerait.
Mais on dirait, franchement, puisque tout à coup, le siège reste vide, on n'a plus le droit de voter, on n'est plus là, c'est comme si on n'était plus député, c'est comme si on était puni, quoi. Comme si on avait commis une faute au règlement.
Mais en tout cas, c'est ce que disent les principales protagonistes, elles le vivent comme ça. Par principe, les institutions ceux qui les habitent, qui les occupent et qui les font vivre, évoluent. Donc, il y a des questions qui ne se posaient pas ou qui n'avaient pas le droit d'être posées il y a quelques années et qui se posent désormais, qui arrivent dans le débat public. Maintenant, la question est de savoir, c'est si finalement les décideurs, ceux qui ont la possibilité de faire évoluer les règles qui permettent la vie des assemblées, souhaitent se mobiliser et accueillir ces questions-là apporter des solutions. Peut-être qu'en 2022, dans certains pays, on revient sur le droit à l'avortement. Peut-être que la France peut faire honneur en ce domaine-là et se montrer progressiste, permettre aux femmes de pouvoir assumer, aux femmes tenues par un mandat électif public, de pouvoir avoir une vie de femme, parce que effectivement, certaines femmes font le choix d'enfanter sans pour autant être mises de côté et voir leur carrière politique complètement lestée ou empêcher le fonctionnement de leur groupe politique. Ça paraît être quelque chose qui n'est pas fondamentalement impossible. Permettre aux assemblées aussi d'évoluer, ça reste quelque chose qui paraît aussi fondamentalement faisable. Maintenant, reste au pouvoir public à se saisir de ce sujet.
Merci Béatrice Guillemont. Je rappelle que vous êtes membre associé au laboratoire Le Cercle à l'Université de Bordeaux et chercheuse à l'Observatoire de l'éthique publique. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Brigitte Giraud qui vient de recevoir le prix Goncourt.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Brigitte Giraud.
Bonjour Frédéric.
Mes félicitations pour le prix Goncourt, hein, pour votre roman « Vivre vite », qui est paru chez Flammarion. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous devez être très sollicité depuis 2 jours.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui, c'est une accélération assez vertigineuse.
Vous avez écrit déjà 11 romans avant celui-là et 2 recueils de nouvelles, vous êtes une auteure très réputée, mais maintenant vous êtes devenue une vedette, hein, des prix Goncourt, il n'y en a qu'un par an. Est-ce que c'est comme vous l'imaginiez ?
Alors j'avais vu tout cela d'un petit peu loin, j'avais lu pour autant les précédents prix Goncourt puisque je suis aussi une grande lectrice. C'est à peu près comme je l'imaginais, sauf que j'imaginais le restaurant, la salle de restaurant de chez Drouan beaucoup plus vaste. C'est un petit détail, mais tout se loge dans les détails comme vous savez.
Oui, effectivement. Alors puisque vous êtes une grande lectrice et que le Goncourt c'est une course qui dure plus de 2 mois, quand on est sur la liste, est-ce qu'on lit les autres romans en compétition ?
Alors j'en avais lu quelques-uns de cette rentrée parce que j'ai eu le bonheur aussi de faire ce qu'on appelle le Goncourt des lycéens, c'est-à-dire de rencontrer beaucoup de lycéens dans 8 villes de France avec d'autres écrivains qui étaient sur la liste du prix Goncourt en plateau. On partage des plateaux et on finit par partager des affinités et on finit par se lire. Et j'avais lu quelques-uns des romans de la rentrée, oui.
Dans Vivre vite, il y a un sous-entendu, c'est mourir jeune. Vous y racontez en effet l'accident de moto qui a tué votre mari, le père de votre fils, il y a plus de 20 ans, alors que vous alliez emménager dans une maison que vous veniez d'acheter. Cet accident, vous avez choisi de le raconter avec des si, tous les si qui auraient pu l'éviter. Si vous n'aviez pas acheté cette maison, si vous n'aviez pas eu les clés à l'avance, s'il avait plu, si le feu n'était pas passé au rouge, et si l'ingénieur japonais Tadao Baba n'avait pas créé la Honda 900 Fireblade qui était autorisée à la vente en France mais interdite au Japon. Et si. C'est un roman sur le destin ou bien c'est une enquête où vous cherchez un responsable, le diable se nichant toujours dans les détails comme vous venez de le dire?
Oui, c'est un roman qui essaye de comprendre l'incompréhensible ou de mettre du sens là où, hélas, il semblerait qu'il n'y en ait pas. Pour autant, en effet, c'est vraiment un livre qui essaye d'émettre tout un tas d'hypothèses, 23 hypothèses, comme des dominos qui s'abattent les uns à la suite des autres, hein, mettant en lumière le fait que quand nous prenons une décision dans l'existence, cette décision a elle-même des conséquences, qui elle-même a des conséquences, et c'est sans fin. Ce qui interroge en effet la notion de destin. Et vous savez, le mot accident, son étymologie veut dire ce qui tombe par hasard. Et le mot hasard, c'est un mot qui vient de l'arabe, qui veut dire jeu de dés. Donc il y a un autre mot qui vient aussi de l'arabe qui est le mektoub, c'était écrit. Donc j'essaye de voir un peu désespérément, mais aussi avec beaucoup d'énergie et parfois une certaine ironie, si cela était écrit, parce que s'il y a une seule des pièces de ces 23 petits chapitres qui ne s'emboîte pas, l'accident n'a pas lieu.
Au fond, votre roman pose les mêmes questions que L'ironie du sort, le roman de Paul Guimard. C'était l'histoire d'un résistant qui va commettre un attentat contre un officier allemand pendant l'occupation. Et tout dépend d'un démarreur de voiture qui marche une fois sur deux. Selon qu'il marche ou pas, le destin de plusieurs personnes va basculer d'un côté ou de l'autre. Pour Paul Guimard, le destin n'était pas inéluctable. Pour vous, est-ce qu'il l'est ou il ne l'est pas?
Alors, après coup, il est facile de se poser les bonnes questions une fois que la catastrophe est arrivée. Je crois que quand le drame surgit dans une famille ou dans une société, inévitablement, le premier réflexe, c'est de se dire si je n'avais pas changé la date de mon déplacement à Paris, s'il avait plu, si je n'avais pas voulu acheter absolument cette maison qui n'était pas à vendre, etc., etc. Parce qu'on a toujours l'impression d'avoir agi parfois sans être sûr de l'action. Hein, c'est vraiment un livre qui parle des choix. Pourquoi est-ce qu'on va opter pour ce choix où parfois c'est très évident et à d'autres moments, le choix nécessite une lourde réflexion et puis parfois on se dit, bon, je me jette à l'eau et on verra bien. Donc après coup, on peut réfléchir autrement, mais surtout le livre me permet de faire des liens et de me rendre compte qu'en effet, une histoire personnelle, une histoire qui peut paraître intime, nous relie au collectif, nous relie à une époque et nous relie aux autres.
Pourquoi avez-vous attendu 20 ans avant d'écrire ce roman? Vous en aviez déjà écrit deux à l'époque, vous auriez pu vous y mettre tout de suite?
J'ai attendu 20 ans parce que il me fallait déjà me sentir sortie du chaos. Mentalement, psychologiquement, physiquement. Pour autant, pendant ces 20 ans, j'ai écrit d'autres livres, comme vous l'avez mentionné, qui interrogent tous d'ailleurs l'absence, le rapport aux autres, etc., mais d'une façon très différente, sous forme romanesque, par le biais de personnages. Et j'ai attendu 20 ans parce qu'il me fallait mener une enquête assez large, une enquête à la fois sur la société dans laquelle nous vivions, sur l'époque, une enquête aussi intime, une enquête autour de de cette moto dont vous avez dit qu'en effet elle était construite au Japon où elle était interdite parce que jugée trop dangereuse et réservée à l'exportation, notamment vers l'Europe. Et il me fallait surtout, comment dire, être à la hauteur. Ce livre me faisait peur, c'est le livre de ma vie, en fait, c'est le livre incontestablement le plus important de ma vie. Je voulais être à la hauteur de cet homme, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Donc je ne pouvais pas faire n'importe quoi avec cet événement. Et puis la recherche de la vérité est toujours quelque chose qui est effrayante parce qu'il faut être prêt à recevoir la vérité pour essayer de voir en effet s'il y a responsabilité. Donc ça a pris 20 ans. C'est un livre que je reportais d'année après année.
Cet accident de moto, c'est évidemment l'événement le plus tragique de votre vie. J'ai quelques scrupules à vous en faire parler d'ailleurs. Et après l'avoir raconté dans un livre, vous pouviez vous en croire débarrassé. Mais avec le prix Goncourt, vous allez devoir revenir dessus et encore revenir dessus et encore et encore. Ça va durer 1 an, vous n'en avez pas peur?
Alors, je n'en ai pas peur. Alors, je vous dirai peut-être dans 1 an dans quel état je suis. Non, parce que précisément ce qui m'intéresse moi dans l'intime, comme je viens de le dire, dans cet événement personnel, c'est pas tant moi, c'est plutôt de voir comment nous sommes en lien avec la société, avec les autres, avec l'histoire, avec la grande histoire, comment nos existences se déroulent à la croisée de contingences qu'on peut nommer plus largement politique. Et dans ce livre, il y a aussi une galerie de portraits, c'est ce qui m'intéresse. Évidemment, il y a le portrait d'un homme, Claude, qui émerge petit à petit, qui était musicien, qui était critique rock, notamment pour le journal Le Monde. C'est un livre qui est traversé par la musique aussi, par l'énergie, par la pulsion de vie. Mais en même temps, quand il arrive un accident de ce type, contrairement aux morts qui ont un sens au vu de l'histoire, par exemple, je ne sais pas, des attentats ou mourir sous les bombes, où il y a quelque chose d'un point de vue du collectif qui peut être pris en charge par une société, où il y a procès, où il y a partage. Là, une mort isolée pose la question de comment on trouve des partenaires. Et dans ce livre, il y a beaucoup de partenaires, et c'est ce qui m'a intéressée. Il y a la reine Astrid, qui est morte elle aussi dans un accident de voiture à 23 ans, parce que l'accident a lieu au pied de cet hôtel 5 étoiles, le Reine Astrid à Lyon. Il y a l'ingénieur japonais Tadao Baba, il y a même Paco Rabanne, il y a même le naturaliste Émile Guimet ou Stephen King ou encore même Eli Kaku. Je pensais pas du tout qu'un jour Eli Kaku serait présent dans l'un de mes livres. Et puis tous les musiciens qui jalonnent l'époque et qui jalonnaient notre vie à ce moment-là. Donc c'est une façon de parler aussi de l'existence.
Merci Brigitte Giraud d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite le meilleur. Vivre vite, le nouveau prix Goncourt est paru chez Flammarion.
Europe 1.
Et voici Lionel Gougelot qui vient d'entrer dans ce studio. C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h. Maintenant, ce sont les grandes voix. Lionel, quel est le programme ?
Eh bien, le programme, on le devine un peu au regard de l'actualité, mon cher Frédéric. L'Assemblée nationale qui exclut pour 15 jours l'un de ses députés du Rassemblement national accusé de propos racistes. L'affaire va-t-elle vraiment faire voler en éclats la stratégie de normalisation de Marine Le Pen ? On verra ça avec les grandes voix. On parlera également du projet de loi immigration présentée par Gérald Darmanin cette semaine. Cette radicalité écologiste qui se développe décrédibilise-t-elle par la défense de l'environnement à la veille de la COP27? Et puis on parlera également des midterms américains. Attention, Donald Trump revient après le journal des 10h.
Bonne émission.